Aujourd'hui, on va faire un partage de la parole de Dieu, une méditation sur certains versets qui vont nous amener à nous donner une réponse sur une question qui est fondamentale, que je pense que tout le monde devrait se poser. Suis-je un fils du diable ou un fils de Dieu? Si je pose la question aux gens qui nous entourent, tout le monde va dire, ben, nous sommes tous des créatures de Dieu, nous sommes tous ses enfants. Dieu il pardonne tout le monde, puis tout le monde est un enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible dit à propos de ce sujet-là? On va aller voir un passage dans Genèse 3:15 qui nous parle justement qu'il y a deux descendances, deux postérités qui descendent dans ce monde. Et la Bible nous parle dans Genèse 3:15 que Dieu nous dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dans ce passage-là, Dieu est en train de parler à Adam et Ève, puis est en train de leur dire, puis le diable est allé à côté, puis c'est suite à ce que Adam et Ève sont tombés dans le péché. Dieu parla au diable, puis lui a dit, « Je vais mettre une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » On voit ici que Dieu désigne qu'il y a, en principe, deux postérités. Il y a celle de la femme et celle du diable. Que présentement, sur la terre, Satan a des enfants et la femme a des enfants. Puis, dans ce passage-là, on voit aussi que Dieu va mettre une inimitié entre les deux postérités. C'est comme si ces deux postérités-là ne peuvent pas être amis. Ils vont être des ennemis, travaillant l'un contre l'autre dans cette vie, parce qu'il y en a qui sont des fils du diable, puis il y en a qui sont des fils de Dieu. Puis on voit que dans la suite des temps, Dieu prophétise aussi dans ce passage-là, qu'il dit que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent, mais que le serpent, le diable, va lui blesser le talon. Puis dans ce passage-là, on le sait que le serpent, c'est le diable. Puis que Dieu, il y a comme deux descendances qu'il nous dit qui vont être en guerre tout le long de l'existence de la vie terrestre. Puis dans ces deux descendances-là, que ce soit les fils de Dieu ou les fils du diable, vont être en guerre, puis ils vont avoir les fils de Dieu qui vont écraser la tête du serpent. Puis là, en partant de cette idée-là, plusieurs ont fait des analyses, plusieurs ont fait des théories ou des explications, essayant de démontrer que l'ensemble de l'humanité sont des fils de Dieu, ou d'autres, l'ensemble de l'humanité est ci, puis d'autres, les fils de Caïn, c'est la descendance du serpent. Puis qu'il y en a d'autres qui vont même jusqu'à dire que Satan a recouché avec Adam et Ève pour faire une postérité à Adam et Ève. À Ève pour dire Ève, elle aurait eu des enfants qui venaient de Satan. Mais tout ça, c'est complètement absurde. C'est pas ce que la Bible elle enseigne au niveau des deux postérités. Je vous demanderai de continuer à rester avec moi pour la suite de l'étude. Puis vous allez voir dans les passages qu'on va aller lire, ça va nous donner vraiment le sens biblique de cette révélation-là, qu'il y a une postérité du diable, puis une postérité qui s'appelle fils de Dieu. Plus tard, on voit qu'Abraham, ça c'est 1500 ans, environ 1500 ans plus tard, qu'on voit qu'Abraham a été déclaré par Dieu le Père, qui était le père de la foi. Dieu a déclaré qu'Abraham était le père de la foi, puis à cause de ça, il a reçu les promesses de l'héritage du monde. Dans Romains 4:13, on peut aller lire ça. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Ce qu'on peut lire dans les écrits de l'Ancien Testament, c'est que Abraham a été déclaré juste à cause de sa foi. À plusieurs reprises, Dieu parla à Abraham, puis Abraham écouta Dieu, et Abraham marchait par la foi dans ce que Dieu lui donnait comme révélation ou comme pensée, puis Abraham a accompli ce que Dieu lui demandait. Puis, à cause de son obéissance, puis à cause de qu'il marchait par la foi, Dieu trouva Abraham agréable. Puis il l'a déclaré juste à cause de sa foi. Puis là, ça nous dit dans ce passage-là que l'héritage du monde a été promis à Abraham, parce que là, il y avait eu des promesses faites à Abraham. Tu vas aller marcher dans un pays où Partout où tu vas marcher, ce terrain-là va t'appartenir, puis ainsi de suite. Puis dans ce passage-là, c'est un passage prophétique. Dieu faisait promesse de la terre, d'une terre, d'un territoire à Abraham, puis cette promesse-là était faite à cause qu'Abraham marchait dans la foi. Les Juifs qui descendent d'Abraham selon la chair, parce qu'Abraham a eu des enfants, Abraham engendra Isaac, puis Ismaël, puis il y a eu Jacob, puis Ésaü, puis toutes des descendances qu'on voit de la Bible, là, c'est toutes des descendants d'Abraham selon la chair, puis la promesse était faite à sa postérité, à sa descendance. La promesse d'hériter le monde, puis toutes les promesses de Dieu. Puis les Juifs qui descendent d'Abraham selon la chair ne sont pas tous considérés de sa postérité héritière de ses promesses. Donc, ils sont pas tous des enfants de Dieu. Dans cela, on peut aller voir dans Romains 9 qui nous explique ce sujet-là au verset 7. C'est l'apôtre Paul qui nous explique cette vérité-là, étant lui-même un juif, il dit, « Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. » C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voyez-vous, l'héritage du monde avait été fait à Abraham et à sa postérité, à sa descendance. Mais ça nous dit dans ce passage-là, dans Romains 9, le verset 7, ça nous dit que l'héritage n'a pas été donné à tous les descendants d'Abraham. Tous ceux qui sont nés d'Abraham. Là, on voit Abraham, Isaac, Jacob, Ésaü, parce que toute la descendance, c'est pas juste la descendance directe enfant, c'est descendance aussi petits-enfants, frères et sœurs. Jacob a eu 12 fils qui ont été les 12 tribus d'Israël. Puis dans l'ensemble de tout le peuple arabe aussi, ça nous dit qu'ils descendent d'Abraham. Mais dans ce passage-là, c'est en train de nous dire, c'est pas à cause qu'ils sont de la postérité physique d'Abraham, qu'ils sont automatiquement tous ses enfants. Mais s'il dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il dit, dans le verset 8, dans Romains 9, verset 8, ça nous dit, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Wow! On est en train de voir que les enfants qui sont nés d'Abraham et dans sa descendance, ne sont pas automatiquement tous des enfants de Dieu, sont pas tous des fils de Dieu, sont pas tous des enfants que la promesse de l'héritage du monde a été donnée à Abraham et à sa postérité. C'est pas tous ceux qui descendent physiquement d'Abraham, c'est pas tous les Juifs ou les Arabes qui sont des fils de Dieu. Mais ça nous dit un petit peu plus loin, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voyez-vous, quand Dieu visait que la promesse du monde était pour être donnée à Abraham et à sa postérité, c'était pas à toute sa descendance selon la chair qui devenait automatiquement héritier. Les héritiers, là, c'est ceux qui sont considérés en vertu de la promesse. Et cette promesse-là a été obtenue par la justice de la foi. À cause qu'Abraham marcha par la foi, il y a eu la promesse. Et la postérité, celle qui est véritable devant Dieu et celle qui se fait appeler enfant de Dieu, ce sont ceux qui marchent dans les traces d'Abraham, leur père. C'est la postérité qui marche comme enfant de Dieu, de ceux qui marchent par la foi sur les traces d'Abraham. Un peu plus tard, pour comprendre encore la lignée de cette idée-là, pour définir qui sont les véritables fils de Dieu et fils du diable, Jésus a déclaré que les religieux selon la loi de Moïse, ne font pas partie de la descendance d'Abraham. C'est pas à cause qu'une personne se dit juif et qu'il essaie de pratiquer la loi de Moïse qu'il sera automatiquement un enfant d'Abraham. Dans Jean 8, 41, Jésus nous fait une surprise avec ce verset-là. Jésus répond aux gens, aux Juifs qui l'entouraient, à ceux qui essayaient de pratiquer la religion juive, et ceux qui se disaient comme étant fils d'Abraham. Il dit, « Vous faites les œuvres de votre père, que Jésus dit. puis il lui dit, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. » Parce que là, les Juifs se disaient tous qu'ils étaient des enfants de Dieu. Jésus leur répondit, ça c'est le verset 42, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Il dit, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Dans ce passage-là, Jésus est en train de dire une vérité essentielle pour nous aider à comprendre qui sont les véritables enfants de Dieu et qui sont les véritables fils du diable. Même si les gens étaient juifs de naissance, qu'ils étaient descendants selon la chair, descendants d'Abraham selon la chair, puis même si ces gens-là disaient qu'ils servaient Dieu, qu'ils aimaient Dieu et qu'ils essayaient de pratiquer la religion de Moïse, la loi de Moïse, Jésus leur a dit ouvertement que ces gens-là ne faisaient pas partie des enfants de Dieu, qu'ils n'avaient pas Dieu pour père. Parce que s'il avait eu Dieu comme père, il aurait aimé Jésus parce que Jésus est sorti du Père, puis il est venu du Père, il est issu du Père. Tout ce qui vient du Père doit aimer Jésus. Si une personne est un enfant de Dieu, se dit enfant de Dieu et qui n'aime pas Jésus, cette personne n'est pas un vrai enfant de Dieu. Puis la Bible a dit que tous ceux qui se mettent en haine contre Jésus, qui se mettent à l'opposition de Jésus, qui refusent Jésus comme sauveur, Jésus leur dit, vous avez pour père le diable, puis vous voulez accomplir les désirs de votre père. Depuis le début de la création, les fils du diable sont des gens qui s'opposent à la vérité, s'opposent au plan de Dieu, s'opposent aux autres enfants de Dieu et combattent les enfants de Dieu, résistent à ceux qui marchent par la foi. Les véritables enfants de Dieu, ce sont ceux qui marchent par la foi, comme leur père Abraham. Puis c'est ceux qui marchent dans les traces d'Abraham, en marchant par la foi, parce que c'est de cette façon-là que Dieu a décidé de justifier l'humanité, en les sauvant s'ils marchent par la foi au Messie. De notre manière que l'on traite Jésus, cela démontre si nous sommes des enfants de Dieu ou des enfants du diable. En fin de compte, si on analyse encore plus en profondeur pour définir qui sont les véritables fils du diable, ceux que la Bible appelle les fils du diable, on voit ça dans 1 Jean 5,19. Ça dit, l'apôtre Jean qui nous dit ça, l'apôtre de l'amour, « Nous savons que nous sommes de Dieu. » Parce que ces gens-là aimaient Jésus. Les apôtres aimaient Jésus. Par là, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Que le monde entier, de tous ceux qui n'aimaient pas Jésus, sont déclarés qu'ils font partie de la puissance du malin, qu'ils sont sous l'empire du malin, sont sous l'emprise du malin, sous l'emprise du péché, et qu'ils résistent à Dieu, qu'ils ne se soumettent pas à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu, qu'ils ne marchent pas par la foi, qu'ils n'aiment pas Jésus. Par là, ça nous démontre qui sont les fils du malin. Ceux qui marchent dans le péché, ceux qui marchent dans la rébellion, ceux qui marchent contre Jésus, ceux qui marchent contraires à la volonté de Dieu, sont des enfants du malin. On voit aussi un peu plus loin dans la parole de Dieu que la promesse faite à Abraham et à sa postérité a été faite, en fin de compte, à Jésus-Christ. C'est une promesse qui visait spécifiquement Jésus-Christ. Dans Galates 3,16, ça nous dit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Puis il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voyez-vous, quand que Dieu dans la Genèse a dit qu'il mettrait une inimitié entre la postérité de la femme, entre sa postérité, ça visait Christ. Quand Dieu a fait une promesse à Abraham parce qu'il marchait par la foi, et à sa postérité, ça visait Christ. Dans ce passage-là, ça nous dit que le seul héritier de toutes les promesses de Dieu, de toutes les promesses qui viennent depuis le début de la création du monde, de toutes les promesses qui ont été faites à Abraham et toutes les promesses de la loi, tout l'ensemble des promesses de la Bible ont été faites pour être données à la postérité, à la seule et unique postérité, c'est-à-dire à Christ. Christ, le Messie, le Oint, le Sauveur, est le seul Fils engendré de Dieu, est le seul Fils de Dieu héritier de toutes les promesses. Il a été engendré par Dieu en tant que forme humaine, bien qu'il est issu du Père, qu'il provient du Père, qu'il était de toute éternité présent auprès du Père, mais il a été fait chair, il a été mis au monde à travers Marie, puis le Saint-Esprit qui a touché Marie a mis Yeshua, Jésus, au monde. Puis ce Messie-là a accompli ce qu'il devait être fait, puis il a marché en tant qu'enfant de Dieu, puis il a enseigné la parole de Dieu, puis il a accompli la parole de Dieu, puis il est mort sur la croix, puis qu'il est ressuscité pour accomplir le salut pour l'humanité. Mais le seul héritier en tant que descendance de la postérité de la femme ou de la postérité d'Abraham, c'est Jésus-Christ, le seul héritier. Puis c'est à cause de cela que... par l'œuvre de Christ que nous pouvons, nous aussi, devenir des héritiers. C'est ce que ça nous dit, que Dieu a accompli une œuvre permettant aux fils du diable, nous, de changer de royaume. Parce que l'ensemble de l'humanité étant sous l'empire du péché et sous l'empire du diable, nous étions tous des enfants du diable, descendants d'Adam et Ève. Mais à cause que le Père a accompli une œuvre pour nous permettre d'être sauvés, puis on voit ça dans 1 Pierre 1:18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Voyez-vous, l'ensemble de l'humanité a hérité d'une vaine manière de vivre. On a hérité d'une vaine manière de vivre qui a commencé en Adam et Ève. Nous avons hérité d'une manière de vivre humaine, charnelle, diabolique. Mais on a été racheté par l'œuvre que Dieu a accomplie en envoyant son Fils, le Fils de Dieu, le seul et unique, venait mourir sur la croix en versant son sang précieux. Il était comme un agneau sans défaut et sans tache, puis il a été prédestiné avant la fondation du monde qu'il viendrait en forme humaine mourir sur la croix pour racheter l'humanité. Dieu voulait nous donner à travers lui une occasion de pouvoir être pardonné de nos péchés et de pouvoir obtenir la vie éternelle. Puis là, après ça, dans la suite, à la suite de la venue de Jésus, Dieu a envoyé des messagers comme l'apôtre Paul pour annoncer la bonne nouvelle. Dans Actes 26-18, ça nous dit, il a envoyé Paul afin qu'il rouvre les yeux des gens qui sont autour pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en Jésus, en Yeshua, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voyez-vous, dans ce passage-là, c'est bien défini, c'est bien décrit que les gens doivent sortir des ténèbres et entrer dans le royaume de la lumière, qu'on doit sortir de la puissance de Satan et de passer vers la puissance de Dieu, de changer de camp, de changer de maître, de changer de Dieu, de changer de vie, de recevoir le pardon des péchés et de recevoir l'héritage avec les sanctifiés. Voyez-vous, l'héritage du monde, l'héritage de la parole de Dieu s'obtient si tu passes par la foi en Yeshua, par la foi au Messie, qu'il est mort sur la croix pour toi. Tu peux recevoir le pardon de tes péchés, et à ce moment-là, ça te donne la possibilité de changer des ténèbres à la lumière, de changer du royaume de Satan au royaume de Dieu, puis de devenir un enfant de Dieu. C'est un message, c'est une bonne nouvelle qui a été annoncée par l'apôtre Paul et par les autres disciples depuis 2000 ans, que tous ceux qui croient au Fils peuvent avoir la vie éternelle, peuvent avoir le salut, peuvent avoir leur nom inscrit dans le livre de vie et devenir des enfants de Dieu par la foi en Yeshua. Puis la Bible nous l'explique, comment devient-on un enfant de Dieu. Dans Jean 1,12, ça nous dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Voyez-vous, dans ce passage-là, dans Jean, il y a un critère, il y a deux critères bien essentiels pour nous donner le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. On n'est pas né enfant de Dieu. C'est pas à cause que nos parents sont enfants de Dieu que nous le sommes par défaut. Ça vient pas du sang, ça vient pas de notre volonté de notre chair, ni de la volonté de l'homme, mais ça vient de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui fait l'appel dans les cœurs. Puis le seul critère, les seuls critères, je dirais, selon ces passages-là, pour devenir un enfant de Dieu, pour être pardonné de nos péchés et pouvoir changer de camp, c'est à tous ceux qui l'ont reçu, c'est à ceux qui croient en son nom. Dans quel nom? Dans le nom de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le nom qui sauve. Il n'y a pas de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par les hommes, parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a que le nom de Yeshua, le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui peut nous sauver, qui peut nous donner le pardon de nos péchés. Si tu crois en ce nom, tu peux devenir sauvé. Tu n'es pas automatiquement sauvé juste en croyant. Ça nous dit dans ce passage-là, c'est à tous ceux qui croient, puis c'est à ceux qui l'ont reçu. Il faut que tu le reçois dans ta vie. Il faut que tu rouvres ton cœur, tu confesses ton état, qu'on est tous des pécheurs, qu'on est tous des enfants du diable. On est tous perdus, nous sommes sans Dieu dans le monde. Puis que tu confesses tes fautes, puis tu confesses que tu crois que Jésus est mort sur la croix pour pardonner tes péchés. Puis là, tu l'invites à rentrer dans ta vie. Tu lui dis, « Seigneur, entre dans ma vie. Prends ma vie, je te la donne. » Puis là, le Saint-Esprit rentre en toi. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Il faut que tu reçoives le Saint-Esprit pour faire partie de la famille de Dieu. C'est ce que ça nous dit dans Jean 3,5. « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, puis ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que nous passions par la nouvelle naissance. Il faut que nous recevions l'esprit. Quand nous venons au monde, nous venons au monde en chair humaine. Ce qui est né de la chair... Adam a mis au monde des êtres de chair. Il n'a pas mis au monde des êtres spirituels. Il a mis au monde des hommes charnels. La race humaine sont des hommes nés de la chair et nous sommes tous chairs. Mais il faut absolument qu'on reçoive l'Esprit de Dieu. Il faut naître de l'Esprit. Il faut laisser entrer le Saint-Esprit dans notre vie. Il faut laisser entrer Dieu dans notre vie. Mais avant de pouvoir recevoir Dieu dans ta vie, il faut que tu passes par le lavage, par le pardon de tes péchés. Il faut que tu confesses que Jésus est mort pour pardonner tes péchés. Et ensuite, tu invites l'Esprit-Saint à entrer dans ta vie. C'est là que, en rentrant dans ta vie, c'est là que tu peux entrer dans le royaume de Dieu. C'est là que tu te fais appeler enfant de Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin que cela. Il n'y a aucune religion qui peut te faire naître de nouveau. Tu ne nais pas de nouveau parce que tu as reçu 3-4 gouttes d'eau sur la tête à la naissance. Tu nais pas de nouveau parce que tu es né dans la religion islamique ou parce que tu crois en la réincarnation, en Bouddha, ou parce que tu as une religion, tu as une belle religion qui t'apprend à aimer tout le monde, ou même tu nais pas de nouveau parce que tu mets les pieds dans une église évangélique. tu nais de nouveau quand tu reconnais que t'es pécheur et que tu crois que Jésus-Christ a payé la dette de tes péchés, puis qu'il est mort sur la croix, il a versé son sang, et par son sang, tu peux être pardonné et lavé de tes péchés. Ensuite, tu l'invoques pour qu'il entre dans ta vie, et le Saint-Esprit descend, il entre en toi. C'est ce que la Bible appelle une nouvelle naissance. Tu nais de nouveau. C'est comme s'il y a une nouvelle vie qui commence. Puis la Bible, elle nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il dit, les choses anciennes, c'est passé. Et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible parle de nouvelle naissance, qui nous donne une nouvelle vie en communion avec l'Esprit de Dieu, puis l'Esprit de Dieu nous amène à vivre d'une manière qui plaît à Dieu, parce que nous marchons en communion avec Dieu. Et c'est à partir du moment que tu reçois le Saint-Esprit, c'est à partir de ce moment-là que tu deviens enfant de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voyez-vous, qui font partie des fils de Dieu ou les fils du diable? Mais c'est ceux qui font partie de la postérité de la femme ou de la postérité d'Abraham. C'est-à-dire, il n'y a que Christ qui est un fils de Dieu. Mais la Bible nous dit que si nous allons à Christ et que nous recevons le Christ comme notre sauveur personnel, puis nous laissons entrer le Christ dans notre vie pour qu'il devienne notre guide, notre sauveur premièrement, mais devenir notre Seigneur, parce qu'il va nous guider à marcher en communion avec lui, puis à marcher selon la parole de Dieu. À partir du moment que tu laisses entrer le Christ dans ta vie, tu es pardonné, tu est sauvé, tu deviens un enfant de Dieu, tu changes de royaume, tu passes des ténèbres et tu rentres dans le royaume de la lumière. Tu quittes automatiquement le royaume de Satan, puis tu rentres dans le royaume de Dieu. Sans naître de nouveau, tu peux pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que ça dit dans Jean 3, de 5 à 7. Il faut absolument recevoir l'Esprit de Christ pour devenir un enfant de Dieu et pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Puis si je vous pose la question, de quelle lignée faites-vous partie? Une question plus simple, avez-vous accepté Jésus comme votre sauveur personnel? Jésus nous dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Jésus-Christ t'appelle, il a été élevé de la terre, il est mort sur la croix, il est ressuscité, il est présentement à la droite de son Père. Et depuis ce temps-là, l'appel est lancé, la bonne nouvelle est annoncée. Veux-tu faire partie des enfants de Dieu? Veux-tu devenir un fils ou une fille de Dieu? Veux-tu être sauvé? Veux-tu avoir la vie éternelle? Je t'encourage à faire cette prière avec moi. Père, c'est dans le nom de Jésus que je m'approche. Premièrement, en te confessant mon état, que je suis perdu, que je suis un pécheur, fils du diable, et que je marche dans ma volonté, dans mes pensées. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Puis je te confesse que je crois que Jésus est venu, venant de toi. Il est venu sur cette terre, il est mort sur la croix, il a versé son sang, il est ressuscité, puis il vit pour toujours auprès de toi. Je te confesse que je crois que Jésus est mort pour moi, pour pardonner mes péchés, et je l'accepte comme mon sauveur. Et je l'accepte comme mon Seigneur. Prends ma vie, Seigneur, je te la donne. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Viens habiter en moi et viens me conduire dans la voie de l'éternité. Je remets ma vie entre tes mains, dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu. Tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel, mais quiconque confesse le Fils, il ne sera point confus. La Bible nous dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, puis si tu le crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dieu t'a entendu, Dieu te pardonne tes péchés, il t'a donné son Saint-Esprit, il est venu habiter en toi. Maintenant, suis-le, Marche dans ses voies. Marche selon la parole de Dieu. Je t'encourage à aller dans une église évangélique pour entendre parler de la parole de Dieu. Je t'encourage à lire la Bible pour connaître Dieu. Je t'encourage aussi à aller sur mon site publication-evangélique.com. Tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement, qui vont t'amener à connaître Dieu plus profondément, à connaître sa parole, puis à marcher en relation avec lui. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine.